France Inter.
France Inter, il est 13h. Et le journal est présenté par Kevin Dufraîche. Bonjour Kevin.
Merci Saskia Deville. À demain pour un nouveau débat de midi et bonjour à tous. Jusqu'où ira la crise diplomatique entre la France et Israël ? Lettre contre lettre. Emmanuel Macron se prépare à répondre aux accusations du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou estime que le président français alimente le feu antisémite en France en prévoyant de reconnaître un État palestinien le mois prochain. Abject, réagit déjà l'Élysée, quand l'ambassadeur d'Israël en France persiste et signe. Israël qui par ailleurs mobilise 60 000 réservistes supplémentaires aujourd'hui en vue de prendre le contrôle de la ville de Gaza. Dans ce journal aussi, de nouvelles frappes russes la nuit dernière en Ukraine. Les chefs d'état-major de l'OTAN se réunissent aujourd'hui. Imiter la respiration et la transpiration humaine pour piéger les moustiques. Un nouveau type d'installation en France. Et puis la vasque olympique allumée spécialement pour eux. C'est la journée des oubliés des vacances du Secours populaire à Paris.
Inter.
Dans trois semaines débutera la 80e Assemblée Générale des Nations Unies à New York. La France, par la voix d'Emmanuel Macron, reconnaîtra alors l'existence d'un État palestinien. C'est ce qu'a annoncé le président de la République fin juillet, tout en appelant à la fin de la guerre à Gaza et à la libération de tous les otages israéliens retenus depuis près de trois ans et les attaques terroristes du Hamas. Depuis, Israël ne décolère pas jusqu'à cette lettre envoyée dimanche par le Premier ministre Benjamin Netanyahou directement à Emmanuel Macron, l'accusant avec cette décision, je cite, d'alimenter le feu antisémite en France. Une analyse erronée, abjecte, qui ne demeurera pas sans réponse, a fait savoir l'Élysée, qui précise donc que le chef de l'État va écrire en retour à Benjamin Netanyahou une nouvelle crise diplomatique entre Israël et la France. Joshua Zarqa est ambassadeur d'Israël en France. Il était l'invité de nos confrères de France Info il y a quelques minutes.
Il y a une lettre semblable qui a été envoyée aussi au Premier ministre d'Australie. Là où il y a des communautés juives qui sont en danger, et aujourd'hui, il y a en tout cas en Israël le sentiment que certaines communautés juives à travers le monde sont en danger. Alors, je ne dis pas que la République ne fait pas. La République fait énormément. Mais il y a tellement d'actes d'antisémitisme qu'aujourd'hui, il semble que ça déborde.
Simplement, mais vous ne craignez pas tout de même que là, ça alimente une nouvelle crise entre Israël et la France ?
La crise vraiment a été créée quand la décision a été prise de reconnaître l'État palestinien sans que ce soit coordonné avec Israël. Et quand il y a encore des otages qui sont des otages israéliens qui sont entre les mains du Hamas, quand les combats ne sont pas encore terminés. C'est une erreur malheureusement stratégique qui peut déstabiliser encore plus encore la région que ce qu'elle est aujourd'hui.
L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarqa, interrogé par Solène Cressan. À l'instant, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, estime que la relation entre la France et Israël mérite mieux que de vaines polémiques. Dans la classe politique, la gauche accuse Benjamin Netanyahou d'instrumentaliser l'antisémitisme. C'est lui qui est en train de propager la haine partout dans le monde, a déclaré sur France Inter ce matin la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot. Alors dans cette lettre, le Premier ministre israélien porte des accusations fortes. Il parle d'une montée alarmante de l'antisémitisme, critique le manque d'action décisive du gouvernement français pour y faire face. L'antisémitisme a augmenté, poursuit-il, depuis l'annonce donc de la reconnaissance à venir d'un État palestinien. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Alors que disent les chiffres sur cette question, les statistiques officielles en France ?
Alors impossible de vous répondre pour ces toutes dernières semaines. L'annonce d'Emmanuel Macron date du 24 juillet. Ce qu'on sait, c'est que les actes antisémites ont explosé depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et le déclenchement de la guerre à Gaza. Ils ont été quasiment multipliés par 4. Avant de se stabiliser l'année dernière à un niveau élevé, plus de 1500 actes antisémites recensés en 2024. Sur les 6 premiers mois de cette année, janvier-mai 2025, on commençait à observer un reflux. 504 actes antisémites, c'est 24% de moins que l'année d'avant à la même époque. Encore récemment, des actes à haute valeur symbolique ont été médiatisés, comme l'arbre planté en hommage à Ilan Halimi, tronçonné la semaine dernière à Épinay-sur-Seine. Madeleine, ou encore hier à Villeurbanne, où une plaque en hommage aux Justes qui ont caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale a été arrachée.
Sarah Guibaudot pour ce décryptage. Pendant ce temps, la guerre dans la bande de Gaza continue. Le gouvernement israélien poursuit son plan pour prendre le contrôle de toute l'enclave palestinienne, cible désignée depuis début août la ville de Gaza. Et alors même qu'une nouvelle proposition de trêve acceptée par le Hamas est sur la table, le ministre israélien de la Défense veut accélérer la conquête de cet objectif. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
Correspondant de RFI à Jérusalem pour France Inter. Et pour ça, Israël Katz veut augmenter significativement les effectifs de l'armée. Il ordonne aujourd'hui le rappel de 60 000 réservistes.
Oui, c'est en fait la première phase de l'opération intitulée « Chariot de Gédéon numéro 2 », une mobilisation d'envergure. Ce matin, l'armée a publié des ordres de mission pour 60 000 réservistes supplémentaires, appelés à rejoindre les rangs dans un délai de 15 jours. Ils viendront renforcer les 70 000 hommes déjà déployés sur le terrain. Hier, le gouvernement a validé une rallonge budgétaire massive, 31 milliards de shekels, soit environ 8 milliards d'euros, afin de couvrir les coûts croissants de cette guerre. Prochaine étape décisive, demain, le cabinet de sécurité doit entériner le plan définitif de prise de contrôle de Gaza, mais aussi arrêter la réponse israélienne au plan de trêve accepté par le Hamas. Ce sont deux décisions indissociables au cœur d'une même bataille, avec des pressions des familles d'otages pour qui l'offensive militaire est un arrêt de mort pour leurs proches, et les réservistes et leurs familles qui, de leur côté, demandent une meilleure répartition des périodes de réserve, notamment en mobilisant les ultra-orthodoxes.
Michel Paul en direct de Jérusalem pour France Inter. Et depuis ce matin, au moins une vingtaine de Palestiniens ont été tués à Gaza, selon la défense civile de Gaza. Après les chefs d'État et les diplomates, autour des militaires, de discuter aujourd'hui de la guerre en Ukraine et des éventuelles garanties de sécurité à apporter à Kiev en cas d'accord de paix. Les chefs d'état-major des armées des pays de l'OTAN doivent se réunir dans un peu plus d'une heure en visioconférence. Pour les États-Unis, Donald Trump a d'ores et déjà dit qu'il n'était pas question d'envoyer des soldats américains au sol, se disant prêt en revanche à un soutien aérien. Malgré les sommets et les discussions depuis ce week-end, la guerre n'a pas baissé en intensité. Cité Valérie Krova, la Russie a encore frappé durement l'Ukraine la nuit dernière.
L'armée russe a lancé dans la nuit une vaste attaque de drones sur la région de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, ainsi qu'à Odessa, dans le sud, où le port, l'un des plus importants pour les exportations ukrainiennes, a été visé. 93 drones au total ont été lancés. L'armée ukrainienne a réussi à en intercepter une soixantaine. Deux missiles balistiques ont par ailleurs endommagé plusieurs immeubles dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, dont une partie reste sous contrôle ukrainien, mais que les Russes sont déterminés à reprendre militairement. Les combats se concentrent actuellement au nord de la ville de Pokrovsk, un pôle logistique clé pour les forces ukrainiennes dans la région. Kiev y a lancé une série de contre-attaques qui a permis de stopper, pour l'instant, l'avancée russe, mais n'a pas empêché la fuite de la population civile de plusieurs villes soumises à d'intenses bombardements. En fin de matinée, la Russie, toujours à l'offensive, a revendiqué la prise de deux villages dans le l'oblast de Donetsk et dans celui voisin de Dnipropetrovsk.
Valérie Krova, une troisième victime en raison des incendies au Portugal. Il s'agit d'un homme mort dans l'accident d'un engin de chantier lors d'opérations visant à lutter contre ces feux qui durent depuis maintenant plus de deux semaines. Plus de 2500 pompiers sont toujours mobilisés pour lutter contre les flammes au Portugal. En Espagne voisine, ces incendies toujours très virulents ont fait quatre morts. Au Pakistan, ce sont les pluies diluviennes qui font des victimes depuis une semaine. Le bilan est désormais de plus de 400 morts. Amplifiée par le réchauffement climatique, la mousson provoque inondations, coulées de boue et glissements de terrain. Les autorités craignent également maintenant la propagation de bactéries et d'épidémies favorisées par les eaux stagnantes. Les services météo du Pakistan prévoient que les pluies vont durer au moins jusqu'à la fin de la semaine, principalement dans le sud du pays.
France Inter, le journal de 13h, Kevin Dufraisse.
L'autopsie de Raphaël Graven aura lieu demain, à précision du parquet de Nice, aujourd'hui dans le cadre de l'enquête ouverte en recherche des causes de la mort. Après le décès lundi en live de ce streamer connu sous le pseudo de Jean Pormanov. Depuis plusieurs mois, il était l'un des protagonistes d'une chaîne sur la plateforme Kick où il subissait brimades et violences physiques de la part d'autres streamers. Devant les enquêteurs, au début de l'année, il avait assuré que ces faits étaient des mises en scène. La plateforme australienne annonce de son côté que les autres personnes ayant participé à cette diffusion ont été bannis en attente de l'enquête en cours. Après la France insoumise, les écologistes soutiennent le mouvement du 10 septembre. En tout cas, leur patronne, Marine Tondelier, qui ce matin dans Libération, estime, je cite, que l'avenir de notre pays se joue dans les mouvements d'ampleur annoncés à la rentrée. Le mot d'ordre « bloquons tout » est né sur les réseaux sociaux après les annonces de coupes budgétaires par le Premier ministre François Bayrou. 11 départements placés en vigilance orange par Météo France pour pluie et inondations aujourd'hui dans le centre et dans l'est de la France, du Loiret au Haut-Rhin. On verra avec Olivier Proust après ce journal qu'elles promettent au moins la baisse des températures après la longue vague de chaleur qu'a connue le pays. De quoi peut-être aussi permettre d'échapper plus facilement aux moustiques, petits insectes qui nous gâchent souvent l'été et face auxquels on se sent souvent impuissant, tellement ils semblent résister aux produits censés les éloigner, souvent chimiques d'ailleurs, mais d'autres solutions existent. La 100% naturelle, bonjour Paul Fleurequin.
Bonjour.
Des bornes anti-moustiques sont déployées ces dernières semaines dans une vingtaine de villes. C'est le cas à Levallois-Perret, près de Paris, où vous êtes rendu.
Oui, direction le parc de la Planchette, où il y a une demi-douzaine de petites machines. Visuellement, c'est une simple borne en bois de la taille d'une poubelle, avec un piège sur le côté. Annie, retraitée, s'approche et lit l'étiquette.
C'est un anti-moustique, c'est très très bien, parce que si ça évite les pesticides, il faut que ça marche.
Effectivement, aucun insecticide chimique dans ce dispositif. Derrière elle, il y a Emmanuel, ravi lui aussi de cette borne 100% écologique.
C'est royal, hein, je veux dire, aujourd'hui c'est ce qu'on cherche. C'est une bonne initiative de la ville.
Surtout qu'il craint les moustiques tigres porteurs de maladies et très présents en France. Concrètement, la borne attire ces insectes en faisant du biomimétisme. Pauline Brugey travaille chez Kista, l'entreprise derrière cet outil.
Elle va imiter la respiration humaine grâce à une bouteille de CO2 et également un leurre olfactif qui, lui, va imiter la transpiration humaine. C'est-à-dire que la femelle moustique, qui est la seule qui pique, va confondre finalement l'humain avec la borne et va finalement être aspirée dans une nasse, dans un filet, dans la borne et donc être capturée ce faisant.
Alors, cette technique n'est pas parfaite. 10% des captures sont des erreurs, souvent des mouches ou des pucerons. Au total, dans les Hauts-de-Seine, il y a une cinquantaine de bornes, une centaine de villes en France sont équipées. En tout, 10 000 entreprises ou particuliers sont aussi propriétaires de cette borne dans le monde. Le prix tout de même, plus de 1 000 euros l'unité.
Paul Fleurequin, service Sciences, Santé, Environnement d'Inter. Sachez que c'est la journée mondiale du moustique aujourd'hui. Et oui, et qu'il en sera à nouveau question au téléphone sonne ce soir, puisque Christelle Robière s'intéressera justement aux nuisibles. Le meilleur coureur tricolore du dernier Tour de France pourra-t-il participer au championnat du monde de cyclisme au Rwanda dans un peu plus d'un mois? Rien n'est moins sûr. Kevin Vauclin est en convalescence. Il a été opéré après s'être fracturé un os d'une cheville. Rien à voir avec le vélo. C'était lors d'un accident domestique. C'est son équipe Arkéa BNB Hotel qui l'annonce, précisant que son temps d'indisponibilité sera communiqué ultérieurement. Kevin Vauclin, 24 ans, a terminé 7e du Tour. Le saviez-vous, l'US Open, le dernier grand chelem de tennis de l'année, a déjà commencé. Alors certes, via le tournoi de qualification, ça c'est une habitude, mais aussi grâce à une nouvelle épreuve, le double mixte revisité avec certains des meilleurs joueurs et joueuses du monde qui d'habitude ne participent pas à ce tournoi. Bonsoir François, bonjour François Ventejou.
Bonjour Kevin.
Il y a de l'argent en jeu, des règles différentes, mais un intérêt sportif un peu limité.
Oui, le double mixte, habituellement, ce n'est pas le tableau le plus suivi lors des tournois du Grand Chelem. Sauf que cette année, les Américains ont décidé de le revisiter, de le dépoussiérer pour lui redonner de l'intérêt. D'abord en invitant des stars du simple. On a par exemple vu hier Carlos Alcaraz avec Emma Raducanu, Naomi Osaka avec Gaël Monfils ou encore Novak Djokovic. Résultat, des spécialistes du double mixte ont été mis de côté, ce qui a provoqué leur colère. L'Italienne Sarah Errani, tenante du titre, a par exemple déclaré « C'est un peu comme si au concours du saut en hauteur, on excluait les sauteurs et qu'on les remplaçait par des basketteurs. » Elle qui a finalement été invitée pour participer au tournoi. Et ironie de l'histoire, hier, elle a battu des stars invitées comme la paire Rybakina-Fritz. L'autre changement majeur, c'est le format avec des sets de 4 jeux et un tie-break en 10 points en cas de troisième manche. L'objectif, c'est de rendre le tournoi plus spectaculaire et d'attirer un nouveau public. À la clé pour les vainqueurs, il y a un chèque d'1 million de dollars à se partager engagés, une dotation 5 fois supérieure à l'édition précédente.
François Ventejou, une compétition qui va très vite aussi, hein, puisque les demi-finales et la finale ont lieu la nuit prochaine. Raconter ses souvenirs de la mer, de la montagne, de moments de soleil en famille ou entre amis, ça compte dans les cours de récréation quand sonne l'heure de la rentrée. Sauf que chaque année, un enfant sur trois n'a pas ce genre de discussion, selon le Secours Populaire. Un tiers des enfants ne part pas en vacances. Ce sont bien sûr les familles les plus modestes qui sont concernées. Alors l'association organise depuis 1979 la journée des oubliés des vacances. Et c'est aujourd'hui, à Paris, 40 000 enfants de tout le pays et même d'une cinquantaine de pays du monde rassemblés pour visiter le château de Versailles, le Louvre, la piscine olympique de Saint-Denis ou encore admirer la vasque olympique au jardin des Tuileries et créer, Erwan Chassin, des souvenirs indélébiles.
Le jour se lève à peine quand ses enfants découvrent la célèbre vasque olympique allumée spécialement pour eux ce matin. Ils l'approchent, la regardent, surpris, émerveillés. Tous peuvent aussi tenir dans leurs mains la flamme olympique.
C'est le meilleur jour de ma vie.
Idriss, 9 ans, vient de Toulouse.
Parce que déjà, partir en colonie à Paris, tu peux tenir les flammes, tu peux t'amuser, il y a des parcs partout.
Idriss n'était jamais venu à Paris jusqu'aujourd'hui. Ce séjour sera ses seules vacances, tout comme Amir, qui se sent privilégié.
Je suis très content, franchement, d'être ici. C'est vraiment rare, franchement, qu'un des enfants d'ici là porte la flamme, du coup.
Ce passage devant la vasque olympique est un message adressé à ces enfants, souvent nés dans des familles pour qui venir à Paris est financièrement difficile. Un message porté ici également par Nanténin Keïta, athlète paralympique, porteuse de la flamme l'été dernier.
C'est un moyen de leur dire que tout est possible. Un mauvais départ n'est pas synonyme d'une mauvaise arrivée. Donc c'est vrai qu'il faut se dire que oui, aujourd'hui, c'est pas possible. Mais il y a eu la chance, cette possibilité-là de venir quand même et de vivre différemment les Jeux.
Il faut que ces enfants aient aussi un souvenir de vacances exceptionnel à raconter à la rentrée, soit Thierry Robert, le directeur général du Secours Populaire.
Cette chance que tout le monde n'a pas eu d'être au pied de la vasque. C'est aussi important que de voir la mer, que de découvrir effectivement ce joyau des Jeux Olympiques.
Vous avez dormi dans le bus ou pas ?
Après cette journée parisienne, le Secours Populaire veut que ces enfants se sentent tout simplement chanceux.
Erwan Chassin pour ce reportage, en espérant que tous ces enfants passent entre les gouttes annoncées dans la capitale cet après-midi.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Et justement, bonjour Olivier Proust.
Bonjour.
Les prévisions météo avec vous. La fraîcheur est quasiment généralisée aujourd'hui.
Alors les températures sont en baisse partout. La baisse est même très marquée dans le nord-est avec plus que 22 à 25 degrés en Grand Est, 20 à 22 de la Bretagne au Val-de-Loire, 23 à Paris ou à Lyon, 25 le long de la Garonne, mais il fait encore 26 à 32 de Perpignan à Ajaccio.
Et toujours de fortes pluies et des orages.
Et vous l'avez dit, 11 départements en orange avec du sud Alsace et de la Franche-Comté au centre jusqu'à l'est Bretagne, des pluies orageuses fréquentes actuellement. Elles sont marquées de la Beauce au Pays de Loire et elles sont en train d'épargner la région parisienne. Une bonne chance pour les oublier des vacances. Plus à l'est, ces pluies vont se réactiver. Elles vont finir par donner des cumuls importants et elles persisteront dans l'est cette nuit et encore demain avec la poursuite d'une vigilance vers les frontières de l'est. Plus au nord, les ondées seront rares cet après-midi. Des éclaircies se développeront même dans le Nord-Pas-de-Calais et près de la Manche sous l'influence d'un bon vent de nord-est. Dans le sud-est du pays, les orages sont localement très pluvieux, d'Auvergne-Rhône-Alpes à la Corse cet après-midi et ce soir. Ils le sont déjà sur la Côte d'Azur, alors que dans le sud-ouest, les averses orageuses sont fréquentes surtout de l'Aquitaine aux Pyrénées.
Merci Olivier Proust de Météo France.